c'est l'histoire d'une jeune fille. Sa mère, elle meurt et son père se remarie avec une dame qui est très méchante et qui a deux filles.
Et ses belles-sœurs, elles sont... En fait, c'est comme une esclave, entre parenthèses.
Et un jour, elle décide de sortir et donc elle va à une fête, mais elle doit rentrer à minuit.
Il y a une fée et qui la transforme un peu en jolie princesse.
Et elle revient, sauf qu'elle perd un chausson vert.
Dans un escalier.
Grâce à ça, elle rencontre son prince.
Et donc il va essayer à toutes les filles du royaume le chausson vert. Du coup, il se marie.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ayons une pensée pour celles et ceux qui essaient d'apprendre le français et se heurtent au cauchemar des homonymes. Il était une fois dans la ville de Foix, une vendeuse de foie, vous connaissez l'histoire. Eh ben j'en ai une encore pire, celle du lombric qui voulait boire un coup. Oui bon, elle n'existe pas, je viens de l'inventer. Il était une fois un lombric en manque d'apéro, impossible de lever le coude, les bars étaient fermés. Alors le ver, privé de ver, s'en est allé, ver de rage, vers la forêt. Une seule et même prononciation, quatre orthographes différentes, la langue française est cruelle. Attendez, il manque encore un homonyme, c'est le ver V-A-I-R, un mot associé pour toujours à Cendrillon. Alors cette chaussure, est-elle en ver ou en verre? Est-elle solide et transparente ou en fourrure douillette? Et qu'est-ce que ça change après tout? Voilà l'une des innombrables questions que pose cette histoire. Je vous propose de nous plonger dans ce conte de fées dont il existe de nombreuses versions. Celle de Charles Perrault, dont s'est inspiré Disney, est la plus célèbre. Cendrillon est une histoire qui met des mots sur la rivalité entre frères et sœurs, notamment sur la jalousie dans les fratries. Et ça, c'est universel, c'est intemporel. Et puis cette quête de la femme à la bonne pointure résonne à toutes les époques. Il s'agit de trouver chaussure à son pied ou pied à sa chaussure. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
En fin d'émission, vous retrouvez Denis Chessou pour son regard sur l'actualité du livre pour enfants. L'as-tu lu, mon petit loup? Barbatruc est préparé par Anne-Sophie Dazard et réalisé par Christophe Imbert. Benjamin Vignal est à la technique. Et j'accueille deux invités. Le premier est un grand créateur de chaussures. Bonjour Christian Louboutin.
Bonjour.
Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Inutile de vous demander
un froid dimanche.
Un froid dimanche confiné. Inutile de vous demander si Cendrillon est votre conte préféré.
Alors peut-être c'est pas mon conte préféré, mais c'est un conte très important pour moi et c'est un de mes contes préférés alors.
L'exhibitionniste, c'est le nom de votre exposition qui devrait avoir lieu en ce moment à Paris, au Palais de la Porte Dorée, fermée bien sûr en raison de la crise sanitaire, mais elle sera de retour, bien sûr, bientôt, on l'espère.
Absolument, encore décembre et janvier.
Ma deuxième invitée est une grande spécialiste des contes littéraires et de Cendrillon en particulier. Bonjour Elisabeth Lemire.
Bonjour.
Bienvenue. Sous la cendre, figure de Cendrillon, c'est une anthologie parue chez Corti. Dans ce livre, vous avez compilé et commenté avec Nicole Belmont une cinquantaine de versions différentes de Cendrillon. Vous avez également dirigé aux éditions Piquier le cabinet des fées, recueil de contes en trois tomes. Combien existe-t-il de versions de Cendrillon? Le sait-on seulement, Elisabeth Lemire?
On a une vague idée, probablement au moins 500.
500.
Ça, c'est un minimum, et probablement plus.
De quand date la première?
On ne sait pas exactement, parce qu'il y a toujours un mystère qui entoure les contes, mais le premier témoignage, il est donné par un géographe grec qui s'appelle Strabon dans sa géographie. Il raconte l'histoire d'une courtisane qui s'appelle Rhodopis, qui prend un bain. Et pendant qu'elle se baigne, un aigle arrive, voit des chaussures dans les mains de ses suivantes, en vole une, et la laisse tomber dans les plis du vêtement du pharaon. Le pharaon se saisit de cette chaussure, en tombe évidemment émerveillé, et il fait rechercher par ses émissaires cette femme, qu'il retrouve, qu'il épouse, et pour laquelle il fait construire, quand elle meurt, la fameuse troisième pyramide de Mykérinos.
Troisième pyramide égyptienne.
Voilà.
Alors ça, c'est la toute première version de Cendrillon.
On pense,
on imagine,
c'est que le conte naît au Moyen-Orient. Voilà.
Alors ça devrait plaire à Christian Louboutin, parce que dans cette version, le pharaon tombe amoureux de la chaussure, sans même voir la femme qu'il avait portée.
Oui, ça c'est formidable. Mais je ne savais pas qu'il y avait autant de versions, je ne savais pas que le conte oral, donc, commençait si tôt.
Ben, c'est très étrange parce que finalement, à partir de cet embryon de conte, le conte de Cendrillon, il a pris deux routes. Il a pris une route à l'est, c'est-à-dire qu'il est allé en Asie, au Japon, en Asie du Sud-Est, puis une route à l'ouest, c'est-à-dire le continent européen, Italie, Allemagne, France, Corse, Espagne, Portugal, d'ailleurs, il y a des versions portugaises très belles. Et de là, il a émigré aux deux Amériques et en Afrique. Donc c'est vraiment un voyageur.
Hein. La version la plus célèbre aujourd'hui est celle de Charles Perrault, qui date du XVIIe siècle et dont s'est largement inspiré Walt Disney pour son film, sorti en 1950. Écoutons cette histoire, si vous le voulez bien. Le conte de Perrault, voici un premier extrait de Cendrillon, lu par Jacques Gamblin.
Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plutôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselle, ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits des plus à la mode et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondé parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis « Cucendron ». La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aîné, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement.
Cendrillon, lu par Jacques Gamblin, c'est un livre audio aux éditions Frémaux. Arrêtons-nous, Elisabeth Lemire, s'il vous plaît, sur le nom de cette jeune femme. Elle s'appelle Cendrillon, vient-on d'entendre, parce qu'elle est tachée de cendres. Mais ce n'est pas la seule version, loin de là.
Loin de là, mais presque toujours, malgré tout, dans les innombrables versions, il y a toujours pratiquement le mot cendre. Hein. Mm-hmm. On a cendrouillé, cendrouse, putain des cendres, enfin, sexe des cendres. Les cendres, c'est vraiment l'élément fondamental. Elle est barbouillée de cendres. Ce que je reproche un peu à la version de Walt Disney, c'est que elle est tellement propre, la petite Cendrillon de Walt Disney, comme un sou d'œuf. Et là, je trouve qu'il y a une erreur par rapport au fondement même de l'histoire.
Il y a une référence dans certaines versions aux cendres de sa mère. Ça n'est pas le cas chez Charles Perrault.
Non, mais c'est probablement la bonne interprétation des cendres. Les cendres, c'est le foyer auquel elle s'est attachée. Et au fond, Cendrillon, elle est tellement liée à sa mère qu'elle pense finalement remplacer sa mère auprès de son père.
Donc il y a une lecture assez oedipienne de cette histoire.
Totalement oedipienne.
Christian Louboutin, vous trouvez-vous aussi que la Cendrillon de Walt Disney est beaucoup trop propre ?
Mais moi, j'ai vu Cendrillon de Walt Disney quand j'étais assez petit, dans le fond. Donc, je me rappelle pas d'elle ni propre, ni sale. J'ai pas le souvenir des cendres. D'ailleurs, j'avais jamais pensé que Cendrillon venait des cendres, vraiment. Mais je crois que la chose dont on se rappelle le plus dans Cendrillon, c'est la préparation du bal, c'est l'histoire du soulier et c'est la méchanceté environnante. Quand même.
Alors voilà, la méchanceté. Cette pauvre Cendrillon vit entourée de très méchantes femmes, hein, ses deux demi-sœurs et sa belle-mère, très méchantes, notamment dans le dessin animé de Walt Disney.
Tu vas voir ce que tu vas prendre.
Ferme la porte, Cendrillon. Approche.
Oh, mère, vous ne croyez tout de même...
Tais-toi, insolente. Alors, on gaspille son temps à faire des niches?
Mère, je voulais savoir...
Silence! On s'amuse à faire des plaisanteries douteuses. Peut-être pourrions-nous trouver de quoi t'occuper davantage. Voyons un peu, il y a... ce grand tapis dans le hall d'entrée. Nettoie-le! Les fenêtres du premier jusqu'au dernier étage. Lave-les! Ah oui, il y a aussi les rideaux et les tapisseries.
Mais je viens de les faire.
Recommence. Et tu nettoieras le jardin sans oublier la terrasse, les marches d'escalier, les cheminées, indépendamment bien sûr du lavage, repassage et couture habituelle. Ah oui, j'allais oublier un détail. Veille à ce que Lucifer prenne son bain.
Une histoire de très méchante demi-sœur, Elisabeth Lemire. Je serais curieuse de savoir comment cette histoire est entendue dans les familles recomposées en 2020.
Je suppose qu'il y a plein de sons à en tirer, probablement. Enfin, je pense que ça a un peu évolué quand même. Non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est cette espèce de double figure qu'il y a toujours dans le conte de Cendrillon. C'est-à-dire une mère bienveillante, la mère morte, et une mauvaise image de la mère qui est la marâtre.
La marâtre.
Ouais. Voilà. Et il y a le père de Cendrillon qui est finalement très falot, assez lâche, quand il n'est pas amoureux de sa fille, et qui fait rien pour la sortir de son état de fille. Et il y a au contraire le père du prince qui, lui, est beaucoup plus dynamique, qui pousse son fils à se marier. D'ailleurs, dans le film de Walt Disney, il est drôle parce que il s'énerve parce que son fils bouge pas et qu'il baille pendant que les filles arrivent. Et puis, il y a l'image de Cendrillon qui est la fille bonne, et puis les demi-sœurs qui sont le versant négatif de Cendrillon, c'est-à-dire jalouse. Voilà. Il y a toujours ces deux images, positives et négatives.
Christian Louboutin, vous avez grandi, je crois, dans une famille de quatre enfants avec trois sœurs. Est-ce que cette histoire qui raconte en sous-texte la rivalité dans la fratrie vous a touché à l'époque?
Moi, j'étais le petit garçon d'une fratrie, mais c'était des sœurs, j'avais pas de frères, donc c'est quand même assez différent. Mais c'est vrai que j'avais l'habitude de dire à ma mère, mais j'ai pas trois sœurs, j'ai 300 sorcières. Mais j'aimais bien mes sœurs, mais je trouvais que mais chaque personne n'est pas une personne, mais dans une personne, il y a tellement de niveaux différents, il y a tellement de facettes, que c'était intéressant pour moi, petit garçon, de voir des plus grandes sœurs changer au fur et à mesure, suivant les gens qui étaient là, suivant s'il y avait mon père, notre père, donc, ou s'il n'y avait pas de présence masculine. Donc tout ça, c'était, moi je me sentais au théâtre. Donc non, je ne me suis pas du tout senti Cendrillon. Mais le conte est important, enfin, pour moi qui dessine des souliers, le conte est très important parce que c'est le soulier est un rite de passage très important dans l'histoire quand même. Et puis il y avait des mots que je me suis rendu compte bien après. Par exemple, j'ai compris il y a assez peu de temps que marâtre, ça voulait dire belle-mère. Ça ne voulait pas dire
méchante,
ça voulait dire belle-mère. Et je pense que par exemple Cendrillon, le comte de Cendrillon est assez responsable d'avoir rendu le mot marâtre qui veut dire belle-mère ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une espèce d'horreur. Donc moi, je vois bizarrement dans le conte de Cendrillon, j'étais plus presque terrorisé par la méchanceté de la belle-mère que les sœurs. Parce que les sœurs, les enfants, très souvent, ils peuvent être cruels entre eux. Donc moi, ça me dérange pas tellement des enfants cruels entre eux, c'est plutôt la notion de l'adulte qui est méchant avec des enfants qui me terrorisaient et qui me rendaient triste pour Cendrillon.
On va en venir aux souliers et à la citrouille dans un tout petit instant.
C'est toujours comme... Je fais semblant.
C'était le trio français de Junior sur France Inter. Drôle d'histoire. Cendrillon en a sous la semelle. Nous parlons du conte de Charles Perrault et de toutes les autres versions de cette histoire avec Christian Louboutin, créateur de Souliers, et avec Elisabeth Lemire, spécialiste des contes. Alors Cendrillon, je le disais, ça peut aider les enfants à mettre des mots sur les rivalités, sur les jalousies entre frères et sœurs. Écoutons des enfants et des adolescents sur ce sujet sensible. Juliette Proutot leur a tendu son micro.
Barbatruc.
Moi, je trouve, des fois, ça se fait pas ce qu'ils font, mes frères et sœurs.
Ça dépend des cas. Bah, quand on exclut extrêmement une personne, voilà. Mais après, si, par exemple... Oh, lui, il a un yaourt au chocolat et pas moi. Cela, c'est...
Après, oui. Enfin, vraiment, tu peux être énormément jalouse d'elle. Parce que, imaginons, tu es moche. Et bah ta sœur, elle parle aux animaux, les petites souris, elles lui font une robe trop belle. Enfin, elle est peut-être un peu rose, mais oui, bon, c'est pas très grave. Un moment, oui, tu peux être jalouse, mais à ce point quand même, lui arracher ses habits, il y a un stade où tu dépasses les bornes.
Mais c'est pas de la jalousie de façon méchante, mais c'est juste... parfois tu veux avoir ce que ta sœur elle a et tout, mais c'est pas d'une manière vicieuse ou quoi que ce soit.
Ouais. Bah, je pense que tous les frères et sœurs, ils ont ça, ou frères, ou sœurs et sœurs. Voilà. Et bah, je pense que toutes les fratries, et bah, ils sont toujours jaloux, parce que tu te rends compte que bah, en fait, les anniversaires, ils ne sont pas tout le temps en même temps. Et du coup, tu as l'impression que la personne, ton frère ou ta sœur, elle a plus de choses que toi, et que toi, tu en as moins. Et du coup, tu as moins d'amour que tes parents.
Bah, si Stéphane, si mon frère il va avec mon père et puis que moi je suis à la maison, je suis jalouse pour être avec lui.
Par exemple, pour aller manger, et ben on sert mon frère en premier que moi, alors que je suis la plus petite.
Être jaloux entre frères et sœurs, c'est normal parce que tu as forcément au moins une fois dans ta vie l'impression que ton frère est préféré ou ce genre de truc, d'être un peu effacé. Donc je trouve ça normal. Après, commencer à maltraiter son frère ou sa sœur parce que t'es jalouse, c'est un peu, ça va pas t'aider. Dans Cendrillon, je pense que peut-être que si les sœurs sont méchantes, c'est peut-être aussi parce que la mère l'est de base. Et du coup, ça a fait qu'elles soient méchantes, elles aussi.
Voilà un sujet sur lequel les enfants sont intarissables, Elisabeth Lemire. On le disait, il y a d'innombrables versions de Cendrillon. Quelle est celle qui vous frappe le plus sur ce sujet-là, celui de la méchanceté des demi-sœurs?
C'est une version tibétaine que je trouve absolument terrible, parce que Cendrillon et les demi-sœurs mettent à mort la mère. Pas Cendrillon, mais les deux sœurs consomment la mère, la mangent.
Waouh.
Et là, c'est une version absolument terrible.
Et pourquoi elle est tuée, la mère?
Alors, c'est une version qu'on trouve aussi en Grèce. En Grèce, les filles disent qu'elle est trop vieille. Ça suffit. On en a assez. On mange pas à notre faim, donc on va manger la mère.
Mais les trois, inclus Cendrillon?
Cendrillon tue la mère. Ce qu'elle ne fait pas, c'est qu'elle mange pas la mère. Non seulement elle mange pas la mère, mais elle recueille ses os et les met dans une espèce de jarre ou les enterre. Et c'est ses os qui fourniront les robes et les parures pour aller au bain. C'est une version très dure.
On préfère largement celle de Perrault, hein, franchement.
Moi, j'aime bien ça. C'est pas la même chose, mais elle est violente, mais elle est belle, elle est extrêmement poétique.
Les contes venus du passé nous apprennent-ils à ne pas avoir peur d'avoir peur?
C'est ce qu'on dit, hein. On dit que les contes sont thérapeutiques parce qu'ils font vivre d'avance ce qui pourrait nous arriver. Maintenant, je pense que des enfants peuvent avoir peur. Enfin, il est certain que, par exemple, le conte tibétain dont je vous parle, ça a quelque chose d'assez effrayant pour les enfants.
Bon, il y a beaucoup
Christian Louboutin.
La mort de la mère dans Limbo, c'est une chose effrayante.
Ouais. La mort de la mère de Baba, celle de la mère de Bambi.
La mère de Bambi. Enfin, dès qu'il y a la mort de la mère, déjà, c'est un désastre.
Absolument. Ouvrons à nouveau notre livre de contes, la version de Charles Perrault. Le meilleur passage de l'histoire, à mon avis, celui du carrosse.
Elle la mena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et, n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière où elle trouva 6 souris toutes en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière et à chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette et la souris était aussitôt changée en un beau cheval. Ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux d'un beau gris de souris pommelées. Comme elle était en peine de quoi elle ferait un cocher, « Je vais voir, » dit Cendrillon, « s'il n'y a point quelques rats dans la ratière, nous en ferons un cocher. »« Tu as raison, » dit sa marraine, « va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un d'entre les 3 à cause de sa maîtresse Barbe, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite, elle lui dit, « Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. » Elle ne les eut pas plus tôt apportés que la marraine les changea en 6 laquais qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés et qui s'y tenaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon, « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise ?»« Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse. Mais sa marraine lui recommanda sur toute chose de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part, ne se sentant pas de joie.
Une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde, lit-on dans le conte de Perrault. Alors je vous pose la question, Christian Louboutin, elles sont en verre VE2RE ou en verre VAIR, ces pantoufles?
Moi je répondrai tout de suite en CRISTAL.
Elles sont en cristal.
Voilà.
Pourquoi donc?
Parce que elles se doivent d'être transparentes. En plus, alors il y a cette histoire entre verre cristal, disons pour la transparence, et verre une fourrure, donc VAIR.
Une fourrure d'écureuil, dit-on.
Alors moi, quand j'ai posé la question, on m'a dit mais parce que c'était une fourrure très chère à l'époque, etc. Mais je crois pas qu'il y ait un rapport à l'argent et avec le fait que ça doit être une chose très chère. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens dans le conte. Et en plus, je pense que si ce conte a la dent tellement dure et a traversé tellement de frontières. C'est parce qu'il y a pas, je crois qu'il y a pas d'ambiguïté. Je veux dire, dans une fourrure, déjà n'importe quel pied peut se loger dans une fourrure. Il y a suffisamment de place, donc il n'y a pas de perfection dans la fourrure. Il y a quand même vraiment cette idée que le pied doit s'adapter au soulier et le soulier s'adapter au pied.
Elisabeth Lemire, d'où vient ce quiproquo ?
Je suis tout à fait de l'avis de Christian Louboutin. Je pense qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Je pense que c'est une erreur de copiste, peut-être, ou une homonymie de son. Vert et vert.
Honoré de Balzac et prétendait qu'il s'agissait d'une pantoufle en fourrure.
Oui, mais c'est un contresens, parce qu'il faut que le prince voit le pied. En fait, on a affaire presque à une double métonymie. Hein. La chaussure, c'est la métonymie du pied, et le pied, c'est la métonymie du corps, et même peut-être d'une partie très précise du corps. Chaussure à son pied, c'est trouver femme.
Hein. Il y a une symbolique érotique manifeste.
Très forte, absolument très forte.
Christian Louboutin, Cendrillon est présente, je crois, dans votre carrière d'artisan, de créateur depuis le tout début. Vous aviez, dans vos premiers ateliers, un soulier Cendrillon.
Oui, absolument. Mais je pense à nouveau, si vous voulez, que Cendrillon, enfin dans mon cas, dans ma vocation pour les souliers, il y a vraiment le syndrome Cendrillon. Et ça, c'est à cause justement de la transparence, de tout ce que peut évoquer la transparence. Et ça aurait jamais été le cas si on m'avait dit il y a une vieille pantoufle en fourrure.
Alors à quoi servait-il ce soulier Cendrillon dans vos... ou sert-il toujours aujourd'hui peut-être ce soulier Cendrillon dans votre atelier?
Numéro un, moi j'ai eu plusieurs souliers Cendrillon. Il y avait ce que j'appelais aussi le syndrome Cendrillon, c'est-à-dire que au tout début de... Donc moi j'ai commencé il y a pratiquement 30 ans. Au tout début de ma carrière, j'ai commencé avec une boutique à Paris. Et dans cette boutique, de temps en temps, quand je trouvais un tissu extraordinaire ou que je trouvais extraordinaire ou je trouvais une peau, une poterie que je ne retrouverais plus jamais, quand j'allais en Inde et que je trouvais un morceau de brocart et que je ne pouvais pas reproduire ce brocart, j'allais pas me casser les pieds à reproduire un brocart qui était beau, mais il n'y en avait peut-être qu'un mètre, donc peut-être de quoi faire 3 ou 4 paires. J'appelais ça le syndrome Cendrillon, c'est-à-dire que je mettais un soulier en taille 37 et puis si quelqu'un l'aimait, je pouvais le refaire peut-être en 2 ou 3 exemplaires. Et je trouvais que c'était important de toujours garder ce syndrome Cendrillon, c'est-à-dire des souliers peuvent exister en des milliers d'exemplaires, et puis les souliers ils peuvent exister en très peu d'exemplaires.
Écoutons, si vous le voulez bien, la fin du conte de Perrault, toujours lu par Jacques Gamblin. Cendrillon est allée au bal une première fois, elle est rentrée à temps, avant minuit, mais elle y retourne une deuxième fois.
Le fils du roi fut toujours auprès d'elle et ne cessa de lui conter des douceurs. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et... oublia ce que sa marraine lui avait recommandé. De sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit lorsqu'elle ne croyait pas qu'il fût encore 11 heures. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle, bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais, et avec ses méchants habits, rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, l'appareil de celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda au garde de la porte du palais s'il n'avait point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne, qu'une jeune fille fort mal vêtue et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ces deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties et si la belle dame y avait été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde, que le fils du roi l'avait ramassée et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'assurément, il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après... le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On l'apporta chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour faire entrer leur pied dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant « Que je vois si elle ne me serait pas bonne ?» Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et, approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ces deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais et peu de jours après, il l'épousa.
Quand vous écoutez cette histoire, Christian Louboutin, comment le voyez-vous, le soulier de Cendrillon ? A-t-il une semelle rouge ?
Moi, j'en ai dessiné.
Oui.
C'est vrai que j'ai beaucoup dessiné en pensant au soulier de cristal, enfin au soulier de Cendrillon. Et j'ai même fait une version, puisque
alors peut, avec rajouter, avec Disney avec en 2012 Disney. À la sortie du DVD, vous oui. avez dessiné un soulier pour Cendrillon. Vous nous le décrivez?
Voilà, l'histoire est différente. On a réinventé l'histoire avec Disney, et il y a un personnage qui doit dessiner le soulier de Cendrillon. Mmh. Et donc c'est moi. Et puis je dessine, mais je suis pas très excité, j'y arrive pas. Il faut que ce soit vraiment le plus beau soulier du monde, etc. Et je suis un peu à court d'inspiration. Et puis tout à coup, je regarde une jeune fille qui passe à travers une vitrine, très jolie jeune fille, je la vois de profil. Et puis il y a un reflet. Et elle met dans l'ombre, elle met son pied pour regarder à quoi ressemblerait sa jambe avec ce soulier. Et à un autre moment, je vois qu'il y a un papillon qui se pose sur son pied nu. Et puis un autre papillon qui se pose sur sa cheville. Et je rentre dardard et je commence à dessiner. Et j'ai dessiné donc un soulier qui est un soulier de cristal avec un talon très incurvé. Il est exactement de la couleur de sa peau. Il est donc transparent, mais il n'est pas en cristal pour qu'elle puisse quand même l'enfiler. Et il y a deux papillons de cristal, un sur la cheville et un sur l'avant du pied. Donc comme un nœud en papillon, comme ça, et un autre papillon.
J'aimerais dire à nos auditeurs et auditrices que lorsque Christian Louboutin parle du soulier de Cendrillon, il le dessine avec ses mains. Impossible pour vous de parler de soulier sans en évoquer l'esquisse avec vos doigts?
Moi, vous savez, mon premier métier, enfin mon principal métier, c'est quand même de dessiner. Mm-hmm. Donc, et en plus, j'aime les courbes, moi. J'ai un dessin, j'ai pas du tout un dessin géométrique, j'ai un dessin vraiment en courbe. Donc, oui, c'est compliqué pour moi de parler de dessin sans y rajouter le coup de crayon.
Elisabeth Lemire, la pantoufle de verre passée minuit, c'est le seul don de la fée, marraine fée, qui ne se désenchante pas dans cette histoire.
Effectivement. Moi, je suis très frappée par la description de votre père, de Cendrillon, parce que vous mettez des papillons. Or, c'est le symbole du mouvement. Cendrillon, elle est pieds nus ou elle est en sabots, elle peut pas bouger de son lieu. Et c'est les chaussures magnifiques de cristal qui lui permettent de bouger et de courir vers le palais du prince. Et je trouve magnifique l'idée d'avoir mis des papillons. Parce que pour moi, c'est l'image même de ce que doit faire la chaussure. C'est-à-dire voler vers l'homme, vers l'autre, vers l'amour. Et...
Le soulier a ce pouvoir magique, enfin les souliers ont souvent ce pouvoir magique de ne pas habiller. Il continue à déshabiller. Donc aussi, il y a dans l'idée du soulier, c'est que c'est un piédestal, mais un piédestal de la personne, mais qui ne change pas la personne. Il grandit la personne, il élève la personne, mais il n'y a pas de transformation dans le fond. Il y a d'où à nouveau la transparence, c'est-à-dire qu'on garde sa virginité, sa taille, sa beauté, son élégance, etc. Mais sa nudité aussi. Dans
sa
le fond.
Nudité.
Alors que n'importe quelle autre chose, si on fait un nu avec un chapeau, ça sera nu au chapeau. Un nu au soulier, ça, on n'a pas besoin de rajouter le mot soulier.
En même temps, c'est un objet du désir, la chaussure. Mm-hmm. Je pense à la fameuse scène de Jeanne Moreau dans le journal d'une femme de chambre. Quand le père de la maîtresse de maison
l'a
fait circuler avec ses bottines, ça fixe le désir quand même. Les chaussures. Je me souviens de ma grand-mère qui me disait toujours, quand tu vois un homme, regarde ses chaussures. Et tu verras qui il est. Voilà.
Barbatruc de Dorothée Barba sur France Inter. I never had a name.
Californian Soil, c'était London Grammar. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. Un chausseur célèbre pour ses semelles rouges, notamment Christian Louboutin, et une dévoreuse de contes, spécialiste des contes de fées de tradition littéraire, Elisabeth Lemire, sont mes invités cette semaine dans Barbatruc. Nous nous penchons cette semaine sur Cendrillon, et je crois qu'il faut que je vous prépare psychologiquement, Christian Louboutin, à ce que nous allons entendre maintenant. Sachant que vous veniez et que nous allions parler de cette histoire, j'ai demandé à notre reporter Juliette Proutot d'interroger des enfants et des ados sur les pieds, sur la beauté du pied. Et quelle ne fut pas ma surprise, voici leur réponse.
C'est pas beau les pieds, enfin ça dépend des personnes.
Oui, il y en a, ils ont des beaux pieds, il y en a, c'est pas trop ça.
Moi, mes pieds, je les trouve moches, je les trouve un peu gros pour ma taille.
Je trouve que vraiment tous les pieds, c'est les pires endroits. C'est là où il y a toutes les saletés, où il y a toutes les peaux mortes, où tes ongles sont vraiment les plus dégueulasses. Quand t'es bébé, par contre, t'as des tout petits pieds bien poitelés, tout mignons et tout. C'est tout mignon. Mais par contre, quand ils grandissent, ils prennent des formes moches. Comme des fois, les doigts, quand ils grandissent, ils deviennent un peu osseux ou sur des trucs. Bah, les pieds, ils deviennent encore plus. Et je trouve ça vraiment moche. Non, j'aime pas les pieds.
Mes pieds, enfin, c'est des pieds, quoi.
Non, non, les pieds,
tous
c'est
moche. Les pieds, c'est moche.
Les pieds, ouais, sont moches, faut être sincère. Ouais, c'est moche, moi, je trouve les pieds, sont moches, faut pas les montrer. C'est pour ça qu'on a inventé les chaussettes. C'est pour ça qu'on a inventé les chaussettes, on les cache.
Ça fait, en fait, l'histoire de Cendrillon, ça fait un peu fétichiste des pieds, quoi. C'est un peu chelou, quand même. Il la reconnaît grâce à ses pieds, c'est pas... Il l'aime pour ses pieds.
C'est moche, un pied, disent en cœur ses enfants et ses adolescents. Mais pourquoi, Christian Louboutin ?
Je crois que déjà, il y a une chose simple, c'est que on n'a pas besoin d'avoir un miroir pour voir ses pieds. C'est le premier truc qu'on voit quand on est enfant, on regarde ses pieds. Je veux dire, on peut pas... On voit ses mains aussi. Mm-hmm. Mais les mains servent le pied, on n'a pas le sentiment que marcher... Enfin, il y a un automatisme dans la marche, donc... On regarde ses pieds.
Le malentendu vient de là, du fait qu'on les voit directement, sans miroir.
C'est vraiment la chose qu'on voit le plus sans se pencher, sans avoir l'utilisation d'un miroir. Donc je pense que ça vient pas mal de là, quand même.
Le mot fétichisme a été prononcé par une adolescente, Christian Louboutin. Vous y voyez une histoire de fétichisme dans Cendrillon ?
Ah oui, bien sûr. Mm-hmm. Je pense que le prince charmant est complètement fétichiste. Mm-hmm. C'est une courroie de transmission, le soulier. Et enfin, moi, à nouveau, comme c'est mon travail, c'est ça qui m'a aussi toujours intéressé. C'est un objet très, très intime. Et donc, de par cette intimité, c'est vraiment un objet de transmission. Moi, j'ai beaucoup d'histoires qui m'ont été racontées de par mon travail, par des gens m'expliquant qu'ils se sont rencontrés à travers un soulier ou m'expliquant, enfin, des histoires très intimes.
Elisabeth Lemire, du fétichisme ?
Oui, bien sûr. Je suis tout à fait de l'avis de Christian Louboutin. C'est un objet qui éveille le désir. Je me souviens que petite fille, quand on m'a acheté une paire de chaussures, je dormais avec la nouvelle paire de chaussures dans mon lit.
Donc, Elisabeth Lemire, super fétichiste.
Voilà, exactement. Et puis c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui nous permet d'avancer, de marcher. D'ailleurs, c'est l'image que j'ai du prince. Hein. Mm-hmm. Le prince, il me fait penser un peu au dieu Hermès, avec ses sandales ailées qui parcourent le monde. Et le prince, c'est exactement ce qu'il fait. Il court pour trouver la femme qui a perdu cette merveilleuse chaussure. Je peux pas ne pas penser aux sandales ailées de Hermès.
Dans de nombreuses versions de cette histoire, mais pas chez Perrault, Elisabeth Lemire, les sœurs, les méchantes sœurs, vont se mutiler les pieds pour pouvoir rentrer dans le soulier.
Elles se coupent le pied et les pieds saignent. Et alors, dans la version de Grimm, elles arrivent d'ailleurs à rentrer leurs pieds et elles partent avec le fils du roi. C'est là qu'il y a un animal bienveillant. Généralement, d'ailleurs, c'est la mère morte, très très souvent réincarnée dans un oiseau, qui dit au prince, mais tu emmènes la mauvaise. Regarde ses pieds, ça saigne. C'est pas la bonne. Et alors, il y a cette phrase terrible de la marâtre qui dit, t'en fais pas, coupe-toi le talon et les pieds. Quand tu seras reine, t'auras pas besoin de marcher. Oui. Je trouve ça absolument terrible.
Mais moi, j'ai toujours eu peur, par exemple, dans le conte de Cendrillon, que quelqu'un arrive et puis a le pied trop grand et fasse éclater le soulier.
On reconnaît bien votre obsession de chausseur. Alors, quelle est la morale de cette histoire ? Vous pensez bien qu'on a posé la question à des enfants et des adolescents.
Il faut pas maltraiter les autres.
Elle est maltraitée, elle aide justement les gens qui sont maltraités.
Ça va être dur déjà de vivre maltraitée pas très bien.
Il y a aussi le fait de ne pas perdre espoir, parce que si Cendrillon avait perdu espoir, que peut-être la fée elle serait pas arrivée et tout, et bah elle aurait jamais rencontré le prince et ce serait jamais passé tout ça. C'est peut-être ça aussi la morale.
C'est ça m'a plu le fait qu'elle perde sa chaussure et que c'est un roman romantique.
Le retournement de situation.
Elle pourrait se sauver.
Parce que peut-être parce qu'elle est trop gentille. Donc peut-être que dans un sens la morale de l'histoire, bah c'est genre te laisse pas faire.
Faut savoir dire non aussi. La morale de l'histoire. Jacques,
c'est de croire en ses rêves, peut-être.
C'est le karma, ça.
Voilà. Mmh. Laquelle de ces morales retenez-vous, Elisabeth Lemire ?
L'espérance, et aussi que, bon, les enfants doivent prendre leur destin en main. Il ne faut pas qu'ils attendent que ça tombe tout fait, tout emballé, et qu'il faut se risquer, et que, bon, très souvent d'ailleurs, la Cendrillon est soumise à des épreuves par la marâtre, elle doit essayer 3 fois quand même d'aller au bal, donc même si on a des échecs, il faut continuer.
Je suis assez étonnée pour ma part par la fin de cette histoire, en tout cas chez Perrault et chez Walt Disney. Aucune rancœur, aucune vengeance, hein. Tout le monde se pardonne, c'est formidable. Un peu décevant, non ?
Non, moi je trouve ça bien.
Non, moi je trouve que...
Moi, je d'avoir un mauvais fond, non. C'est pour ça.
Non, moi je trouve ça très bien. Je trouve très bien qu'elle pardonne. On ne sait pas ce qui va se passer.
Elles étaient quand même très méchantes.
Elles étaient très méchantes, mais ça veut dire que Cendrillon est au-dessus de ça.
Oui.
Je dirais même, que, sans être royaliste, qu'elle a une attitude très royale, très chic. Elle pardonne, elle est au-dessus de la mêlée et elle s'en fiche complètement.
Complètement, oui.
Saviez-vous que Cendrillon s'appelait en fait Cindy et qu'elle est candidate d'une émission de télé-réalité intitulée Avant minuit ? C'est la nouvelle version de Cendrillon que va bientôt proposer Disney. La firme américaine va publier l'an prochain un roman intitulé If the Shoe Fits, qu'on peut traduire par Si la chaussure était la bonne pointure.
Ouais.
Cindy n'a pas la taille mannequin. D'ailleurs, elle va prouver dans cette émission de télé que ses rondeurs sont séduisantes. Alors, ce roman sera publié par Disney. C'est le premier né d'une collection destinée à recycler le catalogue de contes de fées. On y voit évidemment une façon de rhabiller Cendrillon en robe de bal féministe, en flaire le coup marketing. Mais ça prouve tout de même, Elisabeth Lemire, que cette histoire est toujours porteuse au XXIe siècle.
Bien sûr.
Je trouve qu'elle elle fonctionne toujours de la même façon. Pour moi, Cendrillon, c'est une merveilleuse victoire de la féminité. Parce qu'elle assume son destin de femme. Elle se sort de l'emprise de ses parents. Elle va à l'autre, elle va au danger de l'autre. Donc elle assume sa condition de femme. Et donc c'est une magnifique leçon qu'on peut très bien prendre maintenant.
Elle est contemporaine, cette leçon.
Elle est totalement contemporaine.
Christian Louboutin.
Moi je dirais, même au-delà de contemporaine, elle est éternelle.
Ouais.
C'est même pas une leçon, c'est que si on croit en soi-même, tout est possible. Elle est sauvée par la ténacité qu'elle conserve sur son histoire et sur ses désirs et sur ses rêves. Donc l'homme est un exemple là, mais chacun ses désirs, chacun ses ténacités, pour chacun ses rêves. Donc là, c'est un homme, mais ça pourrait être une femme, ça pourrait être une aventure, ça pourrait être une maison, ça pourrait être un voyage, ça pourrait être ce qu'on veut, je veux dire. Ça peut être... Voilà, mais en tout cas, c'est sa ténacité et le fait de croire en elle.
L'expression « trouver chaussure à son pied » vient sans doute de cette histoire, non, Christian Louboutin ?
Moi, je vais demander plutôt à Elisabeth.
Elisabeth.
Je sais que c'est une expression qui est très vieille. Mmh. Déjà, dans tous les contes licencieux du 18e, chez Mirabeau, par exemple, « trouver chaussure à son pied », c'est coïté. Hein.
Voilà, carrément, là encore, la symbolique sexuelle n'est jamais loin.
C'est très net. Hein. Et c'est, je crois que c'est une très vieille expression, « chausser une fille », voilà.
Moi, je peux vous raconter une histoire qui m'est arrivée assez souvent. Ouais. Quand je travaillais dans ma propre boutique, à vendre, j'étais vendeur pendant 2 ans, moi, j'ai souvent vu des pères venir avec leurs filles et dire, voilà, ma fille va à sa première grande fête, à son premier bal, etc. Et c'est le père qui choisissait les souliers. Et j'ai souvent vu, et le père choisissant les souliers, c'est un rite. C'est un rite absolu. Je l'ai vu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au bout d'une 10aine de fois, j'ai compris qu'il y avait vraiment un rituel. C'est-à-dire le père veut être le premier homme à voir sa petite fille se transformer en femme. Et ce qui était intéressant, c'est que quand la mère était là, elle disait toujours à sa fille, « Mais tu sais, j'en ai une comme ça, pareil, je vais te la donner à la maison. Maman, fais pas la même pointure. Mais c'est pas grave, tu rentreras, on va mettre du coton. » Mais alors tout à coup, effectivement, Cendrillon à nouveau est vraiment là. C'est-à-dire que quand il y a une autre présence féminine, il n'y a plus ce passage, il n'y a plus ce rituel possible, et ce rituel est cassé. Et il n'y a pas de méchanceté de la part de la mère, mais il y a que la mère se retient parce que tout à coup, la fille est projetée dans l'univers du désir, etc. Donc c'est une chose que la mère rebute quand même.
Allez, comme promis, voici Denis Chessou.
Dorothée Barba sur France Inter, l'as-tu lu, mon petit loup ?
Et oui, voici donc l'actualité du livre pour enfants qui débute par Mirabelle Prunier, signée Henri Munier et Nathalie Chou, aux éditions du Rouergue à partir de 6 ans. C'est la fable du rejeton rejeté, fable sur la violence du harcèlement, l'exclusion et la bêtise ordinaire. Alors évidemment, quand votre nom de famille est Prunier et que vos parents vous prénomment Mirabelle, ah bah, il mérite un procès.
Devant l'inconnu, le malheur ou le danger, Mirabelle fait face. Elle se tient droite comme un tronc.
Métaphore qui est celle de son histoire. Elle est la cible des moqueries, des quolibets, et Mirabelle, si vous voulez, est un aimant, et le fer est partout.
Elle ne rend pas les coups, pas plus qu'elle ne se rend.
L'intelligence contre la bêtise, c'est parfois difficile. On la croit folle, ses parents sont assez nuls, et quand même, une île s'esquisse.
Sur un bout de terre stérile, elle s'installe en lisière du village. Elle prendra doucement racine.
Elle devient arbre végétal pour s'écarter des humains. Alors parfois, un villageois jette un œil sur le tronc de ce prunier étrange et certains y devinent le souvenir d'un buste féminin.
Pour ses 22 ans, Mirabelle a la puissance placide des arbres. Dans ses veines coule une sève apaisée.
Hiver, printemps qui bourgeonne, fleurs, et puis...
Ils ne m'ont pas aimé, ils aimeront mes fruits. J'en ferai mon bonheur.
En août, sa sève insolente chahute les branches. Son cœur est d'aplomb, son âme souveraine, et elle produira des prunes superbes.
Vous verrez alors que le pire des arbres, dans la pire des terres, peut produire des tonnes de prunes que l'on peut aimer.
Alors c'est un livre atypique, hein, sur fond de douce tristesse à l'origine et de poésie permanente. C'est un message d'espoir à toutes les enfances, hein, qui semblent condamnées à un destin tout tracé, et le tout enveloppé donc avec la douceur des illustrations de Nathalie Chou, où la nature et les animaux se manifestent comme un refuge. Mirabelle Prunier, à partir de 6 ans, c'est aux éditions du Rouergue. La petite lectrice de Élodie Chambaud, illustrée par Tristan Gion, aux éditions Gauthier-Langros, à partir de 4 ans. Alors tout le monde connaît les princesses esselées, les rebelles, les aventurières et même les princesses flémardes. Mais connaissez-vous les princesses petits rats de bibliothèque ?
Il était une fois une petite princesse très intelligente. Elle passait ses journées enfermée dans sa tour à dévorer des livres.
Au moment du dîner, son appétit pour la lecture lui servait de repas aux grandes dames de ses parents, roi et reine.
Elle passe ses journées enfermée dans sa tour. Qu'adviendra-t-il quand nous serons trop vieux pour gouverner le royaume ?
Alors, fidèle à la tradition, le roi lui présenta des chevaliers.
« Je suis venu vous sauver, petite princesse. »
Et elle répondait
« Non, merci, je peux me débrouiller toute seule. »
C'est qu'elle apprenait tout un tas de choses dans les livres, comme fabriquer un antipoison ou bien éteindre le feu des dragons. Et malgré ses connaissances, ses parents étaient quand même désespérés.
Et si petite princesse lisait des livres toute sa vie ?
Alors le roi eut une idée. Passer une annonce dans le journal. Suite à cette publication, 7 nains débarquèrent.
On a vu l'annonce dans le journal du royaume. La petite princesse pourrait s'occuper de notre logis.
Mais elle n'était pas plus princesse à chevalier que fée du logis. Cela dit, elle leur proposa beaucoup mieux.
Elle construisit pour les 7 nains un robot aspirateur, serpilleur, laveur de vitres, lave-vaisselle, lave-linge, cuiseur, vapeur, tondeuse.
Un jour, un monstre approcha du château avec beaucoup de fracas. Le bruit eut le don d'agacer la princesse.
Ce n'est pas un monstre qui va m'empêcher de connaître la fin de mon histoire.
Elle ne tarda pas à découvrir dans ses lectures comment venir à bout d'un monstre à 6 yeux. Eh ouais, il suffisait de déposer des livres différents devant chacun d'entre eux pour lui donner le tournis. Mais elle comprit que même les monstres aimaient la lecture.
Cela lui donna une sacrée idée. Puisque les livres peuvent rendre les monstres gentils, pourquoi ne pas créer une bibliothèque ambulante qui ramènerait la paix dans le royaume ?
Et elle part à la rencontre de tous les méchants pour diffuser la paix par ses livres. Alors ses parents sont rassurés et fiers. Alors si les princesses sont sans doute parmi les personnages de littérature de jeunesse les plus populaires, elles ont rarement été mises en avant pour leur intellect, leur réflexion et leur culture. Élodie Chambaud et Tristan Gion viennent combler ce manque et cet album s'inscrit dans l'air du temps par la modernité de son propos et l'énergie de ses illustrations. La petite lectrice aux éditions Gauthier-Langros, c'est à partir de 4 ans. Merci à Xavier Pestugia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou, nous vous souhaitons de belles lectures.
Et vous cliquez à la page de L'Atulu, mon petit loup, sur le site de France Inter pour retrouver les références de tous ces livres. La fin de l'émission approche. Mes deux invités, Elisabeth Lemire et Christian Louboutin, nous ont aidés à lire entre les lignes de Cendrillon. Et j'ai à présent une dernière question à vous poser. C'est le rituel de fin de Barbatruc. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Christian Louboutin.
Alors moi, c'est une odeur de cire. Puisque mon père était ébéniste, je ne suis jamais allé à son atelier, qui était à Athis-Mons, mais il revenait avec les vêtements d'ébéniste. Et donc, il y avait une odeur de... Il avait un tablier en cuir. Il avait aussi des bleus, j'imagine. Mais il y avait du cuir, et donc sur le cuir, il avait ciré des choses, donc ébéniste, donc le bois. Mmh. Et donc, il y avait des très fortes odeurs de cire. Et donc, mon odeur d'enfance, c'est à Paris. Mais ce sont des odeurs de cire, d'une chose que je ne connaissais pas.
Donc une odeur mystérieuse un petit peu.
Une odeur mystérieuse, voilà. Une odeur qui n'avait pas de... qui restait juste une odeur, qui n'avait pas de forme.
C'est fou parce que dans Cendrillon de Charles Perrault, on dit que le soulier lui va comme cire, ah oui. Je crois, Elisabeth Lemire.
Tout à fait.
Décidément, il y a du Cendrillon partout dans votre vie, Christian Louboutin.
J'assume.
Elisabeth Lemire, même question. Quelle est l'odeur de votre enfance?
Je crois que moi, l'odeur de mon enfance, c'est l'odeur du crottat. Parce que quand j'étais petite, j'étais passionnée par les insectes et on m'avait dit qu'il y avait des insectes qui vivaient dans les crottins et les bouses de vaches. Donc je cherchais désespérément dans les crottins et les bouses, ces fameux insectes qui s'appellent le bousier. Et ça m'a vraiment... c'est une odeur forte pour moi. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'un jour je suis allée dans la merveilleuse boutique de Serge Lutens, à la galerie du Palais Royal.
Le parfumeur.
Et on a ouvert des flacons pour sentir, et dans l'un, qui était d'ailleurs un parfum destiné aux hommes, la première odeur qui est venue, c'était une odeur de crottin de cheval. Et tout de suite après, elle s'est dissipée, elle a donné des fragrances absolument extraordinaires, de cuir, de russie, d'ambre, mais la première odeur, c'était du crottin de cheval. Et je me suis dit, mais au fond, c'est ça mon enfance.
Deux odeurs très puissantes dans notre cocktail olfactif cette semaine, de la cire et du crottin de cheval. Un immense merci à tous les deux. Elisabeth Lemire, les auditeurs et auditrices trouveront votre bibliographie sur le site de France Inter, avec notamment cette anthologie, co-signée avec Nicole Belmont, Sous la cendre chez Corti. Et puis on attend bien sûr la réouverture de l'expo de Christian Louboutin au Palais de la Porte Dorée à Paris. Ce sera dès la fin du confinement. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Bonne soirée et à bientôt sur
Merci.
France Inter.
Bonne fin de week-end.
Bonne fin de soirée.